Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Alex Moranville, Ouellette, est avec nous pour faire le tour des actualités. Alex, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Qu'est-ce qui arrive avec les clients d'Hydro-Québec? Hein?
Oui, parce qu'ils sont encore plus de 130 000 à être toujours privés de courant en ce moment, là, en raison de... Je sais pas si tu as vu ça en fin de semaine, Benoît. Il y a eu un tout petit peu de vent dans certains coins du Québec.
Ouais.
une vraie tempête là, qui a frappé samedi, entre autres. Puis il y a toujours des régions là, qui sont extrêmement touchées, entre autres, là, par ce manque d'électricité. Là, Laurentides, au-dessus de 70 000 personnes. Lanaudière, 32 000. Outaouais, 25 000. Il y a encore des pannes là, qui subsistent aujourd'hui. Du côté d'Hydro-Québec, on dit là, qu'on fait tout notre possible pour que toutes ces pannes-là soit réglé d'ici la fin de la journée. On s'attend quand même à ce qu'il puisse rester là, près de 30 000 résidences toujours sans électricité. Il faut dire qu'il y a des dégâts là, qui ont été faits loin, parfois là des routes terrestres, hein. Parfois c'est loin dans les bois où on retrouve là, ces pylônes d'électricité-là qui ont été renversés. Donc des travaux qui sont complexes à faire. On va travailler d'arrache-pied, là, dit-on, du côté d'Hydro-Québec pour que ça se finisse rapidement.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Alex, à Laval?
Oui, une histoire là assez spéciale. Un homme qui aurait poignardé à mort un des individus qu'il séquestrait dans sa propre résidence à Laval depuis 5 heures. Une histoire qui s'est passée là, dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Laval. On dit que ça a commencé en début de soirée. 5 individus qui ont forcé l'entrée dans une résidence, qui visaient le domicile à ce moment-là, dit-on, selon les informations qu'on a pour l'instant, pour tenter de mettre la main sur un magot de l'argent qui serait donné en héritage, auraient gardé la famille, le prisonnier, pendant près de 5 heures de temps. Finalement, à un certain moment, l'occupant des lieux lui a pris le couteau d'un des malfaiteurs qu'il avait dans les mains, l'aurait saisi, puis l'aurait poignardé à mort. Les suspects, les autres, se seraient enfuis sur le champ et l'homme là, qui a pris le couteau se serait blessé là, quand même grièvement à la main. Et donc, on aurait là une histoire, semble-t-il, de légitime défense extrême dans laquelle quelqu'un aurait trouvé la mort. Et comme le cas pourrait être lié, dit-on, au crime organisé, eh bien, c'est la Sûreté du Québec qui est venue prendre en main là, l'enquête depuis. On tente toujours là, de trouver les circonstances de cette attaque-là, mais c'est une histoire assez spéciale.
Bon, et ce rapport sur la sécurité nationale qui est critique à l'endroit du Canada?
Un groupe de travail sur la sécurité nationale qui composait entre autres là, d'anciens membres expérimentés de la défense, de la sécurité, divers experts vraiment là, qui ont rendu un bilan assez spécial, disons pas très favorable à l'image du Canada. On fait près de 60 recommandations en disant, entre autres, qu'on n'est pas préparé du côté du gouvernement canadien à faire face aux grands événements de sécurité nationale qui pourraient venir bousculer l'ordre établi au pays. On parle de l'ingérence étrangère, bien sûr, les cyberattaques, des États voyous hein, qui se font de plus en plus fréquentes, Corée du Nord, Russie et autres, mais également de l'extrême droite qui est en montée forte au sud de nous, aux États-Unis, une extrême droite qui prend de plus en plus de place et sur les réseaux sociaux et en présentiel dans divers lieux. Bref, on veut être capable d'être en mesure de contrer ces mesures-là. Et depuis 2004, Benoît, il n'y a pas eu un seul nouveau mandat donné à la sécurité publique. Il n'y a pas d'orientation, pas de programme politique qui est donné. Bref, on propose entre autres de réfléchir à des orientations maintenant à tous les 5 ans environ pour rester, si on veut, là, up-to-date en bon français, là, mais être mis à jour constamment pour notre sécurité. Puis on dit dans le rapport, entre autres, c'est assez intéressant, que le Canada est beaucoup trop dans les jupons des États-Unis en ce qui fait sécurité nationale. On repose beaucoup trop sur nos voisins américains pour tout ce qui pourrait nous menacer et ça pourrait revenir nous mordre.
Bon, et deux dernières nouvelles qui se passent en Angleterre.
En Angleterre, ben une qui est pas très drôle, mais qui fait suite au fameux Partygate, hein, les accusations qui ont été portées contre le premier ministre britannique Boris Johnson, là, où on avait eu toutes sortes de fêtes, une entre autres pour son anniversaire de 56 ans, qui ont eu lieu à Downing Street, là, à la résidence du gouvernement, alors que tout le reste du pays, pendant le confinement, devait rester chez eux, ne pouvait pas voir leurs amis, leur famille. Et là, il y a d'autres photos qui sont venues relancer là, ce débat-là, où on voit hier soir, là, ça a été publié, on voit le chef d'État avec un verre à la main qui discute avec plusieurs personnes autour d'une table remplie de bouteilles de vin, remplie de nourriture. Bref, il y avait clairement une soirée qui était là à ce moment-là. Le problème, c'est que lorsqu'il a été interrogé au Parlement sur ce rassemblement-là, qui a eu lieu en novembre 2020, Boris Johnson a assuré là, qu'il savait pas que c'était une fête, que c'est pas vraiment une fête. Là, peut-être qu'il y a eu un verre par-ci, par-là. Mais les images viennent contredire un peu cette version-là. Il avait reçu une amende de police pour la fête de son anniversaire, mais pas pour cet événement-là. Et ça survient tout ça là, juste avant la publication d'un rapport sur le Partygate qui est censé sortir. Mmh. Donc, ça risque d'éclabousser encore plus le Boris Johnson.
Ouais, l'autre ça l'a fou.
L'autre
hein?
nouvelle.
Oui.
Ouais, une autre nouvelle assez disons intéressante là, dont sont friands en général les tabloïds britanniques, une histoire où qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, où il y a un homme qui a quitté sa conjointe de 10 ans et la mère de ses enfants 10 jours après avoir accueilli chez lui une réfugiée ukrainienne dans laquelle il s'est entiché. Ils sont tombés amoureux, semble-t-il, au cours de ces 10 jours-là et finit par quitter le foyer, quitter sa femme en compagnie de cette nouvelle jeune femme qui vient d'arriver. Ce qui est déplorable, par contre, là-dedans, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'en donnent à cœur joie, qui insultent, menacent cette jeune femme-là en disant « ça n'a pas d'allure, tu donnes une mauvaise réputation à tous les réfugiés ukrainiens, ukrainiennes qui veulent se rendre dans des pays comme ça ». Mais bon, ça reste une histoire de cœur, ça reste
Que
des gens derrière tout ça, puis des insultes sur les réseaux sociaux.
J'ai vu un épisode des Simpsons qui racontait ça. Il y a un vieil épisode il y a 20 ans. Là. Puis c'était ça. Quelqu'un, il accueillait une jeune femme à la maison. Puis Homer, là, la femme d'Homer pensait que Homer allait partir avec. C'est comme, c'est un scénario
quoi,
qui.
Tu relances la théorie du complot comme quoi les Simpsons ont tout prédit. Hein?
Oui, c'est ça.
Tu t'en mets dans quelque chose. Tu mets les pieds dans un gros dossier. Là,
ah oui? Ça. OK, on s'en parlera. Alex Baranville, Wallet, merci. On se reparle.